Bonjour et bienvenue donc sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, téléphone du studio 01 43 71 89 40. Alors, j'imagine que vous êtes bien au chaud chez vous, à écouter la radio par ce temps pluvieux, avec un peu moins de chance en véhicule, un peu embouteillé, donc vous aurez le temps de nous écouter pour ces deux heures. Alors, pour aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir alors, un ami, effectivement. Ce n'est pas en tant qu'ami qu'il est invité, évidemment, mais en tant que poète, car il a écrit notamment deux recueils chez le même éditeur, l'éditeur Bruno Doucet, et deux ouvrages qui s'appellent « Où nos ombres s'épousent » et plus récemment, donc il y a peu de temps, « Les terres rares ». Donc, cet ami, c'est Stéphane Bataillon.
Bonsoir.
Avec lequel nous allons discuter ce soir, que nous allons écouter, si sa voix lui permet, parce qu'il a un peu la voix encombrée ce soir. Et nous allons parler avec lui de ses œuvres, de la poésie en général, de son blog, blog poétique ou poète, à voir. Nous avons également Guillaume Poupin qui nous accompagne.
Bonjour.
Et qui va nous accompagner pour les prochaines émissions, s'il veut bien revenir. Et à nous trois, et avec votre aide, chers auditeurs, nous allons pouvoir discuter un peu de tout cela. Alors évidemment, Stéphane, nos auditeurs ne te connaissant pas, est-ce que tu veux bien un peu te présenter ?
Bien, je suis journaliste. Je suis né en 1975. Je suis parisien. Je suis donc journaliste et poète. On dit généralement pas qu'on est poète. Et pourtant, j'écris de la poésie depuis maintenant 6-7 ans. Et c'est devenu pour moi l'activité première, intime, qui un peu oriente les choix des autres. Donc c'est effectivement pas mon activité professionnelle, bien que travaillant dans le journalisme, dans le numérique, je teste aussi beaucoup de choses d'expérimentation numérique en me basant sur le poème. Mais c'est devenu effectivement ce qui me fait vivre. Il y a Rainer Maria Rilke, qui est un poète et allemand, qui avait écrit un petit livre qui s'appelait « Lettre à un jeune poète », que moi j'avais lu, comme beaucoup de lycéens à l'époque. Et la lettre, donc, il répond à un jeune homme qui lui demande « Mais donnez-moi des conseils pour devenir poète ». Et une des choses qu'il dit, c'est « Si vous ne sentez pas que la poésie est vitale pour vous, n'écrivez pas. Il faut que vous sentiez ça. » Ce qui peut paraître un peu violent au départ, de voir ça et de se dire, oui, enfin, violent ou
exagéré.
En fait, c'est vrai et c'est beaucoup plus doux que ça. C'est-à-dire qu'au fil du temps, la poésie devient quelque chose qui nous accompagne, qui change notre regard sur le monde, qui interfère vraiment avec les événements qu'on vit, qui des fois annonce des choses qu'on va vivre, et qui nous permet, c'est une sorte d'art de vivre avec une distance grâce au travail de la langue. C'est un peu comme les arts martiaux. Moi, ça m'a toujours un peu intéressé. Je suis absolument nul en sport, donc j'ai pas persévéré longtemps. Mais il y a cette pratique très technique, très codifiée, donc qui pourrait paraître complètement à distance de la vie, mais qui, une fois qu'on commence à la pratiquer, finalement éclaire notre vie quotidienne d'une autre manière. Et la poésie, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un travail permanent sur la langue à partir d'expériences vécues. Alors, soit vécu et retranscrite le plus immédiatement, soit travaillé ou imaginé, c'est-à-dire se basant sur une réalité. Mais quand même, cette technique qui, à partir de ces éléments vécus, voilà, sublime un peu, sublime l'instant, sublime les instants de vie et permet de mieux les apprécier peut-être.
Alors, un rapide calcul, faire des maths en poésie. Si tu es né en 75 et que ça fait 6-7 ans que tu écris, on ne peut pas dire que tu écris depuis ta plus tendre enfance.
Alors, pas de la poésie. Alors, mon éditeur me dit toujours que c'est un poète et jeune jusqu'à 50 ans. Parce qu'il y a rarement des poètes, au contraire des écrivains qui émergent comme ça, tout jeunes. Non, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas du tout décidé d'écrire de la poésie. C'est venu assez naturellement. C'est venu à cause d'événements qui me sont arrivés dans ma vie. Mais j'ai jamais fait le choix de me dire, allez, tiens, je vais me mettre à écrire de la poésie, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'étais pas du tout un grand lecteur de poésie jeune. Et même quand j'ai commencé à écrire de la poésie, je ne me suis pas tout de suite mis à en lire. Le poème, la forme poétique est venue très progressivement. Et au départ, au tout départ, donc c'était en 2005, ce qui a commencé à déclencher cette écriture de textes plutôt brefs, moi j'écris des poèmes assez brefs, c'est en fait que je me suis dit, j'avais lu, se crée un blog toutes les 10 secondes. J'avais lu ça, une phrase comme ça dans un magazine, je me suis dit, ah bah tiens, hop, je vais essayer aussi, je crée un blog, et hop, un blog en 10 secondes, sur une plateforme gratuite. Je me suis mis à écrire, je me suis dit, tiens, je vais me donner l'exercice d'essayer d'écrire quelque chose qui n'est pas du journalisme, donc qui n'est pas une retranscription de la réalité, un reportage ou une interview, sans me donner de contraintes, à l'exception d'une contrainte de temps et de régularité. Je vais essayer d'écrire tous les jours, ou en tout cas très régulièrement, quelque chose. Et on verra bien ce que ça va donner. Et au départ, c'était des textes plutôt rigolos, des fois des petites chansons, des trucs qui n'allaient pas bien loin. Mais ça me faisait plaisir. Et surtout, j'avais eu, parmi les quelques 10 personnes qui devaient regarder ce truc-là, j'avais eu une ou deux personnes qui ne me connaissaient pas, qui m'avaient dit « Ah bah c'est pas si mal, il y a un truc, c'est rigolo. » Et d'avoir des commentaires comme ça de personnes qui ne te connaissent pas sur ce que tu écris, sans que ce soit publié, enfin voilà, c'est l'Internet, c'est très motivant. Donc j'ai commencé, puis à force, ça a commencé à se structurer un peu, toujours avec cette contrainte-là de la régularité, puis de textes assez courts, assez brefs. Et voilà. Et donc ça a donné lieu à plein d'expérimentations un peu comme ça pour m'amuser.
Excuse-moi, je t'interromps. Ce blog, je ne sais pas si c'est le même, en tout cas tu as un blog aujourd'hui encore qui s'appelle stéphanebataillon.com, tout attaché. Auquel je peux renvoyer nos auditeurs parce que nous en parlerons tout à l'heure, donc s'ils l'ont eu sous le nez, ça peut être aussi parlant parce qu'il contient un certain nombre de références, enfin quand je dis références de ce que tu as fait, des choses que tu j'y publie, que tu écris dessus, et puis il y a des expérimentations effectivement, des poésies sonores, des dessins, des peintures qui sont à l'intérieur. Donc petite parenthèse, stéphanebataillon.com, si vous voulez jeter un œil, après, de toute façon, nous en reparlerons avec Stéphane.
C'est un peu c'est un peu un laboratoire ouvert, en fait. Et ça n'a rien à voir avec la publication d'un recueil, mais c'est un espace très plaisant, parce qu'il est à la fois ouvert au public, visible, et à la fois, j'ai une liberté totale de tester des choses, de tester des collaborations avec des artistes, des dessinateurs, des photographes. Et c'est vrai qu'Internet... Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau. Et pour la poésie, il y a beaucoup de poésie sur Internet. C'est une manière vraiment de toucher un public qui, par définition, est relativement réduit. C'est pas un secret, les livres de poésie ne se vendent pas à des centaines de milliers d'exemplaires. Donc c'est un moyen, par Internet, de tisser des liens avec des lecteurs, de tisser des liens souvent... intime, et la forme brève du poème permet aussi, est très très bien adaptée à Internet et aux nouvelles technologies.
On reviendra sur la forme des poèmes, si tu veux bien, parce que le public, ou je ne sais pas, mais on a sans doute tous un peu quelque part en coin de notre tête, les quatrains avec des vers et douze syllabes, quelque part, cette image-là, et je dis tous, non. Moi, je suis béotien de toute façon en poésie, donc je découvre tout cela, mais il est vrai qu'on a peut-être cette image d'enfance où, on a appris des poésies comme ça, même si par la suite, il y a d'autres choses.
C'est un vrai paradoxe, ça. C'est-à-dire que je vais pas mal dans les écoles, que ce soit des écoles primaires, des lycées, même mardi dernier, j'étais à Nantes, à l'université de Nantes. Et les gens ont peur de la poésie. Les gens ont terriblement peur de la poésie. Comme quelque chose, alors c'est sûr qu'il y a eu plein de choses pour cautionner ça, c'est-à-dire une sorte de mise au panthéon de la poésie, de l'art majeur, le plus haut niveau du langage. Il y a plein de choses qui font que on n'ose pas, quand on n'y s'y connaît pas, mais en même temps, on n'ose pas y aller voir. On a tous lu pendant le lycée ou le collège des poèmes. On a sûrement, beaucoup d'entre nous, aimé Baudelaire. Peut-être Hugo, des choses comme ça, mais après, voilà, on abandonne, sans contrainte de les lire, on abandonne ça. Mais ça touche tous les adultes, c'est-à-dire que qu'on soit enseignant, même des bons lecteurs, des grands lecteurs de romans, il y a une peur comme ça de la poésie, qui moi me semble, que je comprends tout à fait, mais qui est tellement injuste. Parce que la poésie, c'est vraiment prendre les mots. En tout cas, la façon dont moi je la conçois, prendre les mots qui nous appartiennent tous, les mots du quotidien, et en faire quelque chose d'assez, comme une petite construction, une petite fabrication, et puis livrer cette fabrication-là, comme un origami, un pliage en papier japonais, par exemple. Il y a vraiment cette idée de se dire, on prend des mots, on se crée une histoire, on essaye de formuler une émotion avec une forme qui peut être justement très libre. Pas du tout, on n'est pas du tout forcé de faire des rimes, mais on peut faire des rimes. Voilà, et qui donne quelque chose qui me semble à même de toucher beaucoup de monde, vraiment profondément, sans la distance de personnage ou sans la distance d'idées, de démonstration. Vraiment quelque chose qui nous parle directement de notre vie, de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense, de nos relations aux autres. Et quand je disais qu'on peut utiliser les rimes ou pas, c'est qu'aujourd'hui, il est presque impossible de se mettre dans des schémas classiques. Alors, il y a des contraintes, hein, il y a L'Oulipo qui utilise beaucoup ça, des gens comme Jacques Roubaud qui font beaucoup de jeux avec les contraintes. Mais aujourd'hui, si on écrit un alexandrin, on est un peu vu comme passéiste. Alors, ça c'est. Il y a beaucoup moins de rimes aujourd'hui dans la poésie contemporaine. Ça s'expliquait avant, hein. Les rimes c'était pour qu'on se souvienne des poésies, pour qu'on les transmette à l'oral. Beaucoup. Aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, avec le livre, hein, qui a été quand même... la poésie, avant tout, c'était de l'oralité. Depuis voilà, l'apparition du livre, les nouvelles technologies, tout ça, on a moins de rimes. Il ne faut pas les dénigrer du tout. C'est des choses qui, si ça nous correspond à notre sensibilité, peut donner quelque chose. Par contre, il ne faut pas vouloir plaquer, se forcer à faire des rimes. Mais... ça, c'est très intéressant, je trouve. Et c'est peut-être un des problèmes aujourd'hui de la perception du grand public de la poésie, c'est que, en gros, d'un côté, on a des poèmes d'hier, rimés, qu'on connaît tous, et de l'autre, on a eu pendant quelques années des choses très intéressantes, mais qui étaient vraiment du travail sur la structure, sur de l'expérimentation. Alors, il y a eu les lettristes, il y a eu plein de mouvements comme ça, qui, en gros, prenaient le mot, la lettre, le vider de son sens et jouer avec le mot pour le mot, la lettre pour la lettre, et ça donnait des choses qui pouvaient être intéressantes, mais qui, c'est vrai, s'adressaient quand même à un public amateur d'avant-garde. En poésie sonore aussi, il y a eu des choses. Moi, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très intéressant, mais c'est vrai que c'est pas du tout la poésie que j'écris, où j'essaye, sans me forcer, mais c'est naturel, mais j'essaye vraiment toujours de prendre des mots de tous les jours. Des mots à hauteur, presque à hauteur d'herbe. J'aime bien cette idée-là.
Parce que lorsque, là tu parles depuis tout à l'heure de beaucoup de la forme, ils sont brefs, un vocabulaire effectivement compréhensible, enfin quotidien, je ne sais pas, mais en tout cas compréhensible, il n'y a pas un dictionnaire quand on te lit. Mais là je me mets encore à la place du quidam, j'ai envie de dire. Effectivement cette forme, elle est tellement multiple. en poésie. Quand tu parlais du roman, ce qui se vend dans les romans souvent, c'est des choses compréhensibles également, mais structurées d'une façon assez compréhensible. Il y a quelques chapitres, voilà. Bon, c'est... Alors qu'effectivement, entre les poèmes qui sont versifiés ou pas, les poèmes où tu as un mot qui dégringole, on ne sait pas où, etc. Enfin, je ne dénigre pas du tout, hein, mais c'est dans la présentation, dans la forme vraiment, de, les poèmes sonores, les poèmes écrits, les poèmes qui se renvoient, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là justement un besoin, je ne sais pas, mais en tout cas le sentiment d'avoir besoin d'une clé supplémentaire par rapport à un roman de Garou, par
exemple. Ouais, sûrement, et c'est un peu comme le jazz, hein. Le jazz, si on n'entre pas, moi maintenant j'adore le jazz, et vraiment c'est une passion. Mais pendant des années, j'ai été totalement hermétique à cette musique-là, et je me suis dit, mais c'est quoi les clés? La clé. Alors j'ai lu des choses sur le jazz et tout, mais c'est pas marchait pas trop. Mais en fait, je crois, et je crois que c'est pareil en poésie, c'est pas une clé, c'est un poète, c'est une écriture, c'est lire des choses, plein de choses, aller dans une librairie ou à la bibliothèque, prendre de la poésie, alors ancienne ou contemporaine. Je milite pour une lecture de poésie contemporaine. Et à un moment, on se dit, bah, ça, j'aurais pu l'écrire. Ça, c'est waouh. Ou alors, ça, c'est une émotion que j'ai vraiment ressentie et que c'est. Qui est formidablement formulée.
Et toi, tu l'as ressenti, ces mots-là.
Alors, moi, je l'ai ressenti avec Guy Vic, qui est un poète breton, que j'estime énormément, que j'adore. Et c'est vrai que les. Et je me souviens très bien, j'étais dans une librairie, j'ai lu Guy Vic. 2-3 poèmes, très courts. Je me suis dit, waouh, c'est formidable. Et ensuite, Guy Vic m'a emmené vers d'autres. Et je pense qu'il faut trouver, si on veut commencer à découvrir ce bonheur incroyable qu'est la lecture d'une poésie, qui prend en plus pas beaucoup de temps. C'est, on peut en lire tous les matins, tous les soirs, quand on veut. C'est de trouver son poète ami, sa voix amie. Et ça, ça se fait. C'est-à-dire que ça se fait forcément à un moment. Ça peut prendre un peu de temps, on peut tomber dessus tout de suite, mais il y a tellement de liens entre les poésies et les poètes et tout, mais sans même entrer dans l'histoire, des courants, des trucs, qu'on passe d'un poète à l'autre, d'une voix à l'autre, et on se crée, voilà, c'est comme des nouveaux amis, des nouvelles voix comme ça, fraternelles, qui sont autour de nous et qui disent des choses qu'on trouve pas si facilement, qu'on trouve peut-être dans des textes, peut-être dans des textes religieux, peut-être dans des textes de sagesse, mais là avec une sorte d'humanité, avec les failles de chacun d'entre nous, avec les problèmes de chacun d'entre nous, mais avec aussi ce qui reste de lumineux et d'indestructible chez chacun d'entre nous. On le trouve dans la poésie, ça. Et après, voilà. Après, je pense que c'est vraiment une question de trouver son poète.
Est-ce que c'était un accident? Parce que si déjà tu lisais des poèmes en librairie, est-ce que tu n'étais pas déjà attiré par ça?
Alors ça, c'était déjà. J'avais commencé un peu à écrire, mais voilà. J'avais commencé déjà. C'était un peu après. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de basculement vers la poésie. Il y a eu forcément, on écrit, et puis ça prend une forme, et puis on voit que cette forme revient, ou que ces mots reviennent. Il y a des mots qui reviennent, de manière inconsciente. Hein. On commence à écrire une fois, deux fois, trois fois, le même mot, tourner autour de la même thématique, et puis sûrement qu'une fois qu'on ouvre les pages d'un livre, d'un poète, ça entre en résonance. Et donc, du coup, forcément... Et après, ça influence beaucoup. Ce qui est à la fois une joie et ça peut être un risque.
De plagier?
Pas de plagier, mais disons de se fondre dans le sillage d'un poète qu'on adore, quitte à ne plus en sortir. Et là, je trouve qu'Internet est formidable. Enfin, moi, de faire un site quotidien, c'est formidable. C'est que, justement, il faut s'autoriser, de trahir sa forme poétique, pour pouvoir tester d'autres choses, pour qu'ensuite ça nourrisse son écriture. Alors que ce soit de la poésie sonore, que ce soit le travail avec des artistes. Moi, je travaille beaucoup avec un ami qui s'appelle Thomas Durcudeuil depuis quelques années. On s'est rencontrés parce qu'on avait la passion du jazz. On a commencé à faire des poèmes et des illustrations sur les standards du jazz. Et ensuite, lui, il a fait des dessins humoristiques, d'humour noir sublime. Je vous conseille d'aller voir. Et moi, je réagissais un peu sur ses dessins. Donc, des choses qui forcément t'emmènent vers des domaines que tu aurais jamais, pas forcément exploré tout seul, en tout cas. Ou un autre ami fait de la photographie sur Instagram. Donc Instagram, c'est la photographie mobile. Il fait de la très très belle photographie. Il s'appelle Mr. Freaks, son nom de scène. Voilà, et ses photographies, moi, me touchaient vraiment beaucoup. Et je lui ai proposé d'écrire des poèmes à partir de ses photos. Donc cet espace-là, je n'aurais pas forcément monté ces projets-là sans un lieu pour les publier immédiatement. Parce que, voilà, ça se fait souvent, on dit on en fait un, on en fait deux, puis on verra un peu comment ça évolue. Et voilà, c'est des expériences qui te permettent de nourrir ta poésie d'autres thèmes, d'autres mots, d'autres images, et de revenir ensuite vers le poème qui existe seul, qui n'a pas besoin de rien d'autre, à part un peu de blanc autour, et te faire évoluer ça.
Ready to play, I'm not ready to fight, I'm not ready to be the prey of this one-sided game, I'm not ready to climb, I'm not ready to reach there, I'm not ready to see another higher hill appear, I'm not ready to scowl, I'm not ready to I'm not ready to speak out from the bottom of my heart. I'm not ready to stay. I'm not ready to go. I'm not ready to last my thoughts eclipse upon your soul.
Voilà.
On marche, comme tous les jours, au cœur de la foule. On voudrait dépasser les rythmes du bitume. Poursuivre la rencontre de l'eau et des argiles. Pour que le vent brûlant nous fasse changer de peau. Retrouver à tâtons le sentier de la côte, où les roches se prosternent. Mais la perte s'éloigne. Nous n'avons plus d'excuses pour contempler tranquille la croissance des menhirs. Alors, ce qu'on a écouté, c'était Yun Sunna, nouvel album, chanteuse d'origine coréenne, chanteuse de jazz que je trouve fabuleuse. Et j'ai souvent composé, enfin, je compose souvent en écoutant de la musique, et notamment ces chansons-là. Ça me met bien en condition. Ouais.
Alors, donc, chers auditeurs, nous sommes toujours donc avec Stéphane Bataillon, auteur de Les Terres Rares aux éditions Bruno Doucet, un recueil de poèmes. Donc, Radio Libertaire, 89,4 MHz, téléphone du studio 01 43 71 89 40 pour l'émission Trait d'Union, l'invité du vendredi. Alors, Stéphane vient de vous lire le premier poème de son dernier recueil. Alors, nous avons parlé de poèmes, de poésie, d'actes créateurs jusqu'à présent. On va peut-être aborder un peu plus ces deux ouvrages. Alors, tu as participé à d'autres qui sont des recueils auparavant ou des études, etc. Mais en tant que tes œuvres publiées, ce sont ces deux-là, aux mêmes éditions. Le premier, c'est Où nos ombres s'épousent, et le deuxième, Les terres rares. Alors, je ne sais pas si c'est à l'occasion d'événements dans ta vie, mais en tout cas, il s'est produit à chaque fois un événement dans ta vie qui a conduit à l'écriture des poèmes qui sont contenus dans ces œuvres.
Tout à fait. C'est même la raison pour laquelle j'ai écrit de la poésie. J'ai hélas perdu ma femme suite à une longue maladie que beaucoup hélas de gens connaissent, donc un cancer. Et pendant cette période, ces maladies, j'ai pas trop écrit, ou en tout cas, on n'avait pas trop envie de. Enfin, on vivait ensemble ces épreuves-là. Avec des moments bizarrement de grande joie, d'impression de goûter chaque instant comme si ça pouvait être les derniers, d'apprécier la nourriture, d'apprécier les vacances, le soleil, choses comme ça. Et quand elle est partie, ce que j'écrivais a pris une toute autre direction. Je me le suis pas dit consciemment, parce qu'on se le dit pas consciemment, mais en gros, avec le recul, je me suis mis à écrire pour lui rendre hommage. Pour rendre hommage à sa force et pour rendre hommage à ce qu'elle a été, ce qu'elle a transmis à moi et à tous ceux qu'elle aimait autour d'elle, et pour pas qu'on l'oublie. Alors il y avait ça, il y avait aussi traverser cette épreuve personnelle, malgré tout l'entourage familial, amical, extraordinaire, cette épreuve très solitaire du deuil. Comment vivre ce temps, le temps qui est le même pour nous tous? Et qui, quand on perd un être cher, Paul Éluard, quand il a perdu sa femme, disait « le temps déborde ». Et il y a vraiment cette impression que le temps n'est plus le temps des autres. Où en une minute, mille choses peuvent se passer de manière fulgurante, et on peut fondre en larmes et éclater de rire en 5 minutes. Et on est en décalage avec les autres. Et pourtant, faut quand même commencer, surtout ne pas renoncer à la vie, ne serait-ce que par respect pour celui qui part, ou celle qui est partie. Donc continuer, se raccrocher comme ça à une parole. Et cette parole, c'est une parole pour moi qui a été naturellement une parole poétique. Et dans mon premier recueil, j'avais mis en quatrième de couverture un poème qui ne se retrouve pas à l'intérieur du recueil, qui est « Je t'avais promis une caresse chaque soir. Désormais, ce sera un poème. » Et cette petite chose, mais qui est de la création, qui est étincelle de vie et témoignage de vie, je pense que c'est ça qui me... Jusqu'à présent, même si ce que je dis dans le premier recueil, la perte s'éloigne, mais l'intimité avec ma femme n'est pas moins grande. Reste forte, même s'il y a plein d'autres choses, plein de belles choses qui sont arrivées, un nouvel amour et ce second recueil qui est le témoignage d'une nouvelle naissance, puisqu'avec ma compagne d'aujourd'hui, nous avons eu un fils, et c'est le récit un peu de cette annonce et de ces bonheurs-là d'attendre un enfant. Et ce que je dis, et j'ai conçu ces deux recueils un peu de manière similaire sur la forme, sur le nombre de pages, sur la... Finalement, le premier traitait du deuil, le second de la vie, mais il y a de l'amour partout. Mmh. Voilà. L'amour de ma femme, l'amour de ma compagne d'aujourd'hui, qui connaissait et qui était une amie de ma femme et qui était mon amie. Et ce qui nous a, je pense, permis à tous les deux aujourd'hui de vivre ça de manière très apaisée et très sans que la perte vienne rien empêcher dans un amour nouveau. Mais en même temps, en s'y référant et en continuant, en poursuivant une vie et en ayant par cette épreuve, en ayant un signe fort de l'importance de continuer à aimer ces vies et ces instants, et forcément de devenir un peu, d'avoir un peu, d'être en décalage avec l'illusion complète de notre société, faite de courses, faite d'un pouvoir où on a envie de contrôler sans pouvoir plus rien contrôler, on a envie d'ordonner sans avoir réfléchi une seconde à notre propre liberté. Et c'est pas toujours facile, sans se retirer du monde, de garder une sorte de distance aussi par rapport à ça. Les mots permettent de le faire. Les mots permettent de le faire. Il faut pas se... C'est pour ça aussi que je conçois la poésie comme non pas un engagement, parce que je trouve que utiliser la poésie pour défendre un engagement politique, religieux, il y a d'autres moyens sûrement plus efficaces de le faire. Alors, il y a eu des exemples. Hein. Il y a des exemples. Je veux dire, pour une cause qui n'est pas une cause de vie ou de mort. Il y a des grands poètes de la résistance. C'est formidable. Et là les mots choisis, la force poétique des mots est nécessaire pour changer, pour bouleverser les consciences. Mais sinon, mettre la poésie au service d'une cause, quelle qu'elle soit, moi, me semble... En tout cas, c'est pas du tout mon envie, mon désir. Par contre, pour moi, le fait d'utiliser des mots du quotidien, de parler de choses quotidiennes, d'essayer de sublimer par les mots ces expériences-là, c'est une forme d'engagement. C'est une forme d'alerte, et pour moi, en premier, et pour ceux qui partagent ces mots-là, de dire, voilà, il existe encore des lieux où on peut s'extraire du tourbillon et rentrer en soi, et essayer de rentrer en soi, l'émotion des autres, puisque finalement, ce que moi j'exprime, c'est avant tout les émotions que j'ai ressenties, que j'essaye de formuler. Mais voilà, j'écris cette poésie pour la partager, pour la lire, pour qu'on la lise.
Et comment est-ce que tu fais pour concilier ce qui peut apparaître comme une contradiction, c'est-à-dire cette obligation de quotidienneté, d'immédiateté quelque part, et ce recul nécessaire pour pouvoir écrire.
Alors la quotidienneté, elle n'est pas si régulière que ça. il faut se laisser libre aussi de quand on sent que le poème n'est pas là, c'est pas la peine de le chercher. Il vient. Mon poète préféré, Guy Vic, est resté 13 ans sans écrire un seul poème. Et pourtant, il a énormément écrit, énormément publié. Ça m'a rassuré, cette idée-là, face à la... le ton du poème est un temps... Alors, c'est étonnant, hein, mais c'est un temps un peu à part. Quand on passe 15 minutes sur nos smartphones ou sur l'ordinateur, on s'ouvre une session Facebook, ça peut durer 3-4 minutes, mais il y a une expérience qui a un poids. Qui souvent, d'ailleurs, il y a eu des études là-dessus, qui souvent nous laissent dans des états de frustration et d'énervement. Ils ont remarqué qu'après une session Facebook, les gens étaient plutôt tendus et presque un peu énervés de voir qu'il se passait tout ça dans la vie des gens. Mais c'est un temps spécifique. On a une énergie particulière dans des consultations comme ça et on peut le faire plusieurs fois par jour. Je pense que le temps du poème, pareil, c'est un temps qui peut être très court. Moi, je passe rarement plus d'une demi-heure sur un poème. Et voire bien moins. C'est-à-dire que il y a sûrement des idées qui se forment au cours de la journée, mais c'est souvent une prise de notes dans le métro, c'est 10 minutes, c'est des moments courts, mais pourtant qui ont une vraie densité dans ma vie quotidienne. Donc il n'y a pas trop de problème avec cette question de... À partir du moment où je ne me force pas à écrire tous les jours, il n'y a pas trop de problème. C'est des temps qui se cassent facilement dans une vie d'aujourd'hui. C'est aussi pour ça que j'aime bien la poésie. Je pense qu'il y a une partie... Je dis que c'est de la paresse. Ce n'est pas que de la paresse. C'est se dire, on crée un monde en 5 minutes. En 5 minutes, on va raconter une histoire. J'aime beaucoup les micro-nouvelles aussi. Alors, c'est pas très connu en France, c'est plutôt dans le monde latino-américain qu'il y a des spécialistes du genre, mais c'est des romanciers souvent qui écrivent des histoires en une phrase ou en voilà. Et ça, je trouve ça génial. C'est voilà, comme un peu des proverbes, sauf que ça raconte une histoire, ça transmet une émotion. Et j'aime bien cette idée d'écrire des choses assez, assez concises.
Alors, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'engagement, ou pas nécessairement en tout cas. Mmh. Alors, première chose, quand on sait que tes deux ouvrages sont liés l'un à la perte donc, de ta femme et l'autre à la naissance de ton fils, on peut imaginer que lorsqu'on va l'ouvrir, on va forcément tomber sur ou un biberon d'un côté, ou une douleur de l'autre, etc. Et pas du tout. Alors évidemment, il y a des poèmes qui ont un trait évident par rapport à cela. Et il y en a d'autres qui paraissent plus distants ou autres. Mmh. Alors, déjà, dans les deux, il y a quatre parties. Hein. Je te demanderai tout à l'heure pourquoi il y en a quatre. Voilà. Moi, par exemple, il y a un poème que j'aime bien. Alors, bouge tes oreilles si tu veux bien, parce que je ne suis pas poète et je suis piètre lecteur. Mais il y en a un.
Donnons-nous tous le droit. Non, mais c'est vrai, ça commence par là. Hein.
Je vais me le donner. donc, c'est dans Les Terres Rares, le dernier. Et il m'a interpellé. Je ne dirai pas plus, convaincu ou pas, c'est pas la question, il m'a interpellé. Les autres scandent des noms qu'ils ne peuvent porter, tentent la diversion sous l'œil des gardiens. Nous sommes les héros d'une histoire sans prestige.
Est-ce que je peux te répondre en demandant à ce qu'on mette une musique ?
Bien entendu.
Brassens, la reprise de Brassens.
Merci Guy.
Donc ça, c'est celui qui est dédié à...
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'a...
plus insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort. Péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Oh, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de
Je pense qu'il faut rester libre de tout et ne pas oublier qu'il y a eu la guerre. Et je pense que moi, ça m'a toujours, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait ? Est-ce que je suis sûr que je serais entré dans la résistance ? C'est très facile d'écrire aujourd'hui un poème de résistance. C'est très facile de se... de prendre fait et cause pour un combat, voire même s'il est lointain. Maintenant, qu'est-ce que moi j'aurais fait si c'était voilà, une question vitale. Il y en a plein qui se la posent aujourd'hui hein, dans le monde. Et ce poème, c'était un peu pour... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas utiliser la poésie pour se donner, se créer une image héroïque, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une... Quand on le raconte, ça devient héroïque, mais je ne suis pas sûr que la... En lisant les albums de Tardi, enfin, je ne sais pas si... Mais c'est pas la joie, quoi. Il n'y a pas d'héros d'un côté. Il y a juste de la peur, il y a juste de la crasse, il y a juste... C'est pas si simple.
Est-ce que tu peux juste nous préciser qui chantait la chanson et...
Alors, je crois que c'est Subway.
Oui, hein.
C'est une reprise
Exact.
De Brassens sur un album Les Oiseaux de Passage, où il y a plein de reprises assez réussies, je trouve. Il y a pas mal d'énergie. J'aime bien ça.
Alors, comme nous avons une petite pause quand même, je rappelle que nous sommes avec Stéphane Bataillon pour son ouvrage Les Terres Rares, hein, sur Radio Libertaire 89,4 MHz. N'hésitez pas à nous contacter au 01 43 71 89 40. Nous avons plusieurs pauses comme ça, je pense, parce que nous avons plusieurs occasions de lire des poèmes. Moi, j'en ai mis de côté hein, quelques-uns, de toute façon. Bon, après, il y a ton choix à toi. Il y aura une guéguerre des choix, je pense.
Si, c'est ça.
Il y a beaucoup d'occasions de parler de poèmes, quand même, aujourd'hui. Nous avons peu l'occasion d'en parler, nous, à la radio. Donc, je profite de ta présence. Nous avons parlé de l'origine. Au niveau du quotidien, moi, je dois dire que j'avais regardé d'un œil amusé et puis de plus en plus intéressé. Ces courts poèmes qui étaient affichés sur les rames de métro. Alors, il y a eu, je crois, d'abord des poèmes entiers, puis après, ils ont mis des extraits, etc. Alors, je me lançais des petits défis, genre, est-ce que je serais capable de m'en souvenir en sortant du métro, des choses bêtes. Et c'est après que je me suis rendu compte de, finalement, l'effet que ça avait eu de ça. Et donc, bah, je me demandais, qu'est-ce que tu pensais, par exemple, de la poésie s'immiscer comme ça dans une quotidienneté? Est-ce que c'est dévalorisant? Est-ce qu'au contraire, c'est enrichissant?
C'est formidable, et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'initiatives comme ça. Alors là, pour le coup, nous, citadins, on adore. Enfin, c'est vrai que lire deux, trois mots comme ça, il y en a toujours un qui reste un peu en mémoire. C'est peut-être pas le même. C'est la guerre des choix, mais la poésie est faite pour ça. La poésie est faite. C'est une très bonne forme, la poésie dans le métro, je trouve. Ça a été arrêté un moment, et puis je crois que les gens ont dit, mais non, mais on aimait vraiment ça. C'est vraiment la poésie est au cœur de la vie, au cœur de la ville, et elle doit être partout. Moi, je suis vraiment pour un. J'avais un ami qui avait lancé une initiative originale qui était le billet poème. C'était un billet qui vendait vraiment rien, avec un poème marqué dessus, qui distribuait ça comme ça. Voilà, presque un bout de papier qu'on va. Alors c'était indéchirable, il l'avait mis sur une matière indéchirable, c'était assez, ou c'est assez parce qu'il continue, je pense. Voilà, que la poésie, que le souci de qu'il n'y ait pas que l'idée à transmettre, qui est vraiment cette élégance de la forme, ce soin à porter, comme quand on fait un cadeau, on essaie que le paquet soit beau, cette élégance à porter à tous les niveaux, pour dire quelque chose à quelqu'un, il faut que ce soit enfin partout. Mais il y a très peu d'occasions. Hein. C'est vrai que la poésie, alors c'est super de deux heures de parler pendant deux heures de poésie, c'est assez rare. Alors le service public fait beaucoup d'émissions littéraires, ça existe, hein, mais relativement peu quand même. Il y a peu d'espace médiatique pour la poésie. Il y a le Printemps des Poètes, qui est une manifestation où il y a pas mal de choses organisées, pas mal de mise en avant de la poésie. Il y a des marchés de la poésie, il y a des maisons de la poésie. Il y a d'ailleurs une maison de la poésie à Paris qui existe, qui a été fondée par Pierre Segers, et qui là se renouvelle un peu avec une programmation qui va être ouverte à toute la littérature orale, pas le théâtre. Mais toutes les expériences de littérature, d'expérimentation comme ça, de rencontres avec les textes et le public.
Il y a un événement ce week-end d'ailleurs.
Il y a un événement, il y a une lecture. On fête les 3 ans des éditions Bruno Doucet. Samedi soir, tout le monde peut venir. Il y aura pas mal d'auteurs, de poètes qui liront leurs poèmes. Ça va être, je pense, assez sympa. Et puis, voilà, la Maison de la Poésie, c'est un lieu qui promet beaucoup. Moi, j'ai vu le programme du prochain mois, là, c'est plein de choses, des concerts avec poèmes, des lectures par les auteurs. Enfin, voilà. Ça, c'est des initiatives. Alors, il n'y a pas un espace médiatique formidable. Par contre, il y a énormément de choses qui se passent si on aime la poésie et qu'on a envie d'en entendre. L'achat de recueils de poésie reste, relativement confidentiel, hein, même si, s'il y a aussi il y a des belles collections qui sont présentes dans toutes les librairies, très bien. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'événements. de lecture, de lecture concert, des choses dans toutes les villes. Hein. À Marseille, il y a beaucoup de choses. À Lyon aussi. À Paris, tous les soirs, on a 3-4 événements.
Mais lorsqu'on parle de poésie d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne la retrouve pas dans les arts de la rue, j'ai envie de dire? C'est-à-dire, il y a un groupe de rap qui s'appelle les sages-poètes de la rue.
Oui.
Il y a donc le rap, le slam, est-ce que le graff ou la décoration murale?
Moi, je crois qu'il y a, il faut rien exclure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilise la langue, les mots, la typographie, pour une création, même mixée avec d'autres arts, il y a poésie. Et... il y a une grande. Je trouve ça un peu ridicule, les chapelles. Alors, bon, récemment, c'était est-ce que le slam, c'est de la poésie? Mais il y a eu, il y a encore, est-ce que la chanson, c'est de la poésie? Oui, il y a de la poésie, bien sûr. Enfin, c'est vraiment sortir le langage de son rôle purement utilitaire, la poésie. Non pas pour raconter une histoire, mais pour, voilà, pour transmettre quelque chose d'intime, de profond. Donc, ça, c'est très bien. Après. Il y a une vraie, je trouve, un vrai bonheur à ne faire que des poèmes avec des mots inscrits sur une page. Pour moi, le poème n'a pas besoin forcément ni de musique, ni même de voix. Moi, au départ, j'étais très réticent au fait de lire mes poèmes. Maintenant, je prends vraiment beaucoup de plaisir parce que ça crée une connivence avec... les gens qui écoutent, ça crée une chaleur différente. C'est très intéressant.
C'est-à-dire quand tu fais sur ton blog, par exemple, les expériences sonores où tu lis tes poèmes?
Non, plutôt dans des soirées poétiques où je lis mon recueil, où lis des... Voilà,
avec le public devant toi.
Voilà, avec le public devant moi. Où c'est très très bien quand le public... on sent le silence, la qualité d'un silence qui fait qu'on entre en connivence tout de suite. C'est vraiment une belle expérience. Donc ça j'aime bien, mais je trouve que le poème aussi se tient très bien sur une page et n'a besoin de rien pour exister et pour avoir la force nécessaire pour toucher l'autre, le lecteur.
Puisque tu tiens un blog, est-ce que tu as des retours sur ton blog?
Oui, j'avais plus de retours quand je ne publiais pas. Alors, je sais pas si c'est les gens... ose moins. Il y a ce statut. Bon, moi, c'est...
d'auteur publié.
Oui, il y a quand même quelque chose d'auteur publié. Dans une maison, je n'y suis pour rien, mais les éditions Bruno Doucet, c'est une belle aventure d'amitié. Parce que Bruno Doucet, il était patron des éditions Segers avant de monter sa maison d'édition. Et c'est aussi une très belle réussite. Dans l'univers français contemporain de la poésie. C'est vrai qu'il y a une attention à l'objet, une attention extrême à la qualité des textes publiés. Je m'exclus, hein, mais je sais que bon, je suis un lecteur des éditions. Aussi une qualité d'ouvrage et même de distribution de ces livres. Bon, qui fait que effectivement il y a... peut-être, oui, peut-être que les gens... Il y a cette histoire de la distance par rapport à la poésie, par rapport à la peur, où c'est moins... ah oui, tiens, ça c'est sympa, ou ah tiens, c'est pas bien tout ça. Maintenant, j'ai beaucoup de retours directs, ou des gens qui m'écrivent suite à la lecture du livre. Et ça, vraiment, alors... Et encore, voilà, il n'y a aucune notoriété là-derrière, hein, je ne suis pas... Mais c'est un tel bonheur de recevoir une lettre de lecteur qui te dit qu'il a été touché parce que tu as raconté. De surcroît, quand c'est une expérience douloureuse comme le deuil, moi, la période qui a suivi la disparition de ma femme, on m'a souvent donné des mots, des phrases de René Char, la vie est un risque à courir, des choses comme ça, qui m'ont souvent marqué et aidé à surmonter la douleur. Surmonter le néant qui est tout proche, parfois. Se dire, non, mais il y avait ces mots-là. Ces mots-là, ils étaient forts. Ils m'ont été transmis. Et j'ai eu quelques témoignages, alors peu nombreux, mais pour moi, essentielle qui justifie tout le travail fait pour sortir ces recueils, de gens qui aussi sont face à la perte d'un être cher et qui me disent ce livre pas m'a aidé, mais je me suis senti en... m'a fait du bien, m'a apaisé parce que je me suis senti en proximité, peut-être un peu moins seul dans cette expérience extrêmement solitaire, de savoir que d'autres personnes le vivent, d'autres personnes essayent de transmettre ça dans une société où la mort est totalement effacée. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de la mort, on ne veut surtout pas voir la mort aujourd'hui dans notre société occidentale. C'est d'autant plus dur quand on est touché par ça, parce qu'il n'y a aucun point de repère. Les rites, dans certaines sociétés, civilisations, la mort fait partie du quotidien, est présente. Bon, quelqu'un meurt, c'est dans l'ordre des choses. On voudrait que ce ne soit plus dans l'ordre des choses, ou en tout cas que ce ne soit plus quelque chose qui puisse arriver. D'ailleurs, je suis très, très surpris lors d'enterrements, lors de voir que c'est souvent les enfants qui réagissent le plus naturellement du monde. Et c'est pas qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent très bien ce qui se passe. Mais pour eux, il y a quelque chose de... qu'on a peut-être perdu, un savoir qu'on a peut-être perdu, intuitif. C'est pour ça que c'est pas triste, mais que ça existe. Et donc je pense que les mots, c'est à la fois... Et c'est des poèmes sont à la fois quelque chose d'assez intime, d'assez... immédiat, donc on n'a pas besoin d'assez direct aussi. Encore une fois, il n'y a pas le personnage devant, il n'y a pas une histoire, il y a juste, voilà. Si j'avais très peu de mots à écrire, voilà ce que les mots que je choisirais pour vous dire ce que j'ai à dire à l'état où j'en suis dans ma vie de l'expérience.
Est-ce que tu acceptes de prendre donc un poème de ton premier ouvrage qui correspond à cela, et à nous le lire, s'il te plaît.
J'avais pensé partir avant la fin du jour, éviter les remous pour m'en aller léger et n'encombrer personne. Mais je dois me résoudre à rattacher la barque aux lourds anneaux du port. Car ce soir, il est tard, trop, pour prendre la mer. Je n'ai pas la douleur, je n'ai pas le besoin, et je n'ai pas l'exil. J'ai juste perdu celle que j'aimais. Bien sûr, l'asphyxie. Bien sûr, le pourquoi. Crier sans voix au fond de l'ombre. Mais quelque chose qui nous dit d'attendre, que nous devrons nommer, quelque chose de simple. Une larme gorgée de ton sourire ne dit pas si je dois pleurer, mais doucement.
Donc voici quelques poèmes de ton ouvrage. Ces poèmes, tu les as choisis, tu as choisi de les lire. À la fois, on sent ton émotion et on sent ton apaisement.
Oui, mais je pense qu'aussi ça, c'est le temps. Le temps fait beaucoup. Hein, quand on n'imagine pas la force du temps, en fait. Le temps fait beaucoup dans la vie, que ce soit dans... La difficulté, c'est notre rapport au souvenir après. C'est notre rapport à la mémoire. Mais des fois, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et laisser faire les choses, tout ça.
Ben justement, moi, dans ce recueil, il y en a d'autres qui m'ont, ouais, qui m'ont frappé. Frappé, le mot n'est pas exact. Qui m'ont touché, peut-être. Alors je le lis à ma façon, excuse-moi. L'eau de cette rivière n'essaie même pas de submerger la roche. Elle sait depuis sa source qu'il faut la contourner. Je ne sais pas si dans tes yeux il n'y aura qu'un seul reflet. Je prends le risque de la foule. Ah, le premier de ces deux, là, l'eau de la rivière, ça a un côté très zen. Je dois dire.
Ouais.
C'est ça,
c'est lâcher prise.
C'est lâcher prise et ne. Enfin, contourner, c'est bien continuer dans la même direction et sans se heurter finalement. Donc il y a un côté, oui. Enfin, moi j'imagine bien un film asiatique où un sage chinois dirait ça. Enfin, ça me. Et j'étais beaucoup plus troublé, je dois dire, par cette petite phrase, enfin ces deux phrases, il n'y aura qu'un seul reflet dans tes yeux, je prends le risque de la foule. Est-ce que tu as eu un moment où tu as du mal à partager ta peine ? C'est-à-dire, c'est ma peine, c'est ma femme, et vouloir de la solitude.
Ah ! J'ai la chance d'avoir une... ma compagne. Pas encore ma femme parce qu'on est pas marié, mais c'est tout comme qui m'a beaucoup qui m'a permis de surmonter tout ça, donc qui a été vraiment avec moi sur dans cette épreuve là qui a plus que quiconque voilà, où j'ai eu confiance suffisamment pour pouvoir avoir ce parfois ce dernier lien avec la société. C'est-à-dire, il y a des fois on a envie de voir personne d'autre, mais donc ça c'est grâce à elle que je pense j'ai pu ne comment t'as dit c'était
vouloir la solitude.
La solitude, oui, c'était pas grâce à elle, je voulais pas la solitude totale avec le monde. Par contre, il y a un moment, bien sûr, on a envie d'être vraiment seul. Mais tout simplement pour accepter sa solitude déjà, pour pouvoir rentrer en soi, parce que forcément, ça chamboule tout. Parce que forcément, on ne cesse de se construire au fil de la vie. Et quand un événement comme ça vous arrive, moi, j'étais encore, je suis encore relativement jeune, j'avais pas 30 ans. Mais peu importe, ça remet un peu les compteurs à zéro. Donc forcément, on a besoin de temps pour se rentrer en soi et essayer de voir ce qui tient vraiment malgré tout, malgré les conventions, malgré le personnage qu'on s'est construit, malgré des envies ou des désirs qui persistent comme des images un peu qui persistent sur la rétine, mais qui sont soit déjà rassasiées, soit déjà qu'on maintient par habitude. Donc il y a vraiment un moyen de. Il y a un moment où on a besoin de se dire, OK. Et moi, la poésie, elle servit vraiment. Alors, elle servit à trouver ça, à formuler ça, à sortir les mots pour trouver ça. Et maintenant, et c'est là où les autres interviennent, comme je publiais ces poèmes, au fil du temps, sur mon site internet. Je me disais quand même, il y a des gens qui lisent. Même si c'est 10 personnes, il y a des gens qui lisent. Donc il ne s'agit pas de faire une sorte de journal intime public avec du pathos ou avec... Enfin, j'aurais fait d'autres choses. Ou en tout cas, là, pour le coup, ça me regarderait. Ce n'est pas public. Si je décide de publier ces poèmes-là, même comme ça, un peu à l'arraché... immédiat, c'est parce que donc j'ai conscience qu'il y a un lecteur, donc je vais avoir l'élégance de travailler suffisamment ma langue pour enlever ce côté qui peut vite quand même devenir soit une plainte. Donc il y a un travail de construction à partir d'une émotion que j'estime la plus sincère possible. Enfin, j'essaye en tout cas de pas travestir les émotions que je fais passer dans mes poèmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail ensuite sur les mots, sur la langue, sur le placement des mots. Déplacer dans un poème de trois vers un mot du troisième, de la troisième du troisième vers au premier, ça change tout. Organiser pour préparer un recueil une masse de poèmes qu'on a écrits sur 2 ans, forcément à un moment on est obligé de raconter non pas une histoire mais tenir un fil. Donc il y a eu toute une étape aussi lors de la publication de ce premier recueil où Nos ombres s'épousent, qui a duré près de 2 ans, parce que peut-être qu'aussi il n'y avait pas suffisamment ce recul, cet apaisement là, on était encore trop dans la douleur de la perte. Il y a eu toute une période de travail, de reconstruction, d'assemblage des poèmes, et forcément avec une sensation à un moment de se trahir un peu. C'est-à-dire, mais je suis en train de raconter un récit, de construire un récit à partir de mon expérience. Il y a des choses qui se sont passées après, je les remets avant, donc est-ce que ça va finir par être sincère ? Voilà. Et puis il y a un moment où finalement ça semble, tout coule de source un peu, donc on revient au poème de La Roche, et où là le recueil plutôt peut être donné à l'éditeur qui te dira lui ce qu'il en pense, ou t'aidera à améliorer ça. Et ça je le dis dans une époque où on commence à croire que les éditeurs ne sont pas utiles. Que les gens qui écrivent peuvent se publier sur Amazon, en numérique, avec un fichier Word, et avoir, comme c'est arrivé, un succès. C'est arrivé. Bon. On sous-estime beaucoup, voire on méprise, le rôle d'un éditeur, pas d'une maison d'édition, de quelqu'un qui va avoir un regard sur ton texte, à la fois bienveillant, le poussant, pas poussant l'auteur, poussant le texte pour qu'il soit édité, pour qu'il sorte, et à la fois très critique, en pouvant te dire « ça, c'est pas bon, il faut retravailler. » Et moi, j'ai un éditeur, et c'est pour ça que je suis très attaché à cette maison, qui fait ce travail-là, de travailler la virgule, de travailler chaque espace du poème avec nous, avec les auteurs, avec les poètes, jusqu'à ce que tout le monde soit content. Qu'on se dise, voilà, on peut le mettre en... On passe de la cuisine à la salle de restaurant. Le plat est bien. En poésie, c'est pas si courant. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Et souvent, il n'y a pas cette attention-là, vraiment, au texte, à ce qu'on va offrir. Et moi, qui écris relativement court, c'est d'autant plus important. C'est-à-dire que je suis très sensible à ça. Parce que chaque poème imprimé, voilà, soit bien présenté et travaillé.
Dans l'idée de continuité, dans Les Terres Rares, donc celui qui vient de sortir, il y a un poème qui me semble être un écho à celui que j'ai mal lu, là, sur le regard. Je vais te demander de le lire cette fois-ci, pour ne pas froisser les oreilles des auditeurs.
Mais bon, très bien.
Celui de gauche.
Ah oui. Aucun trouble dans l'eau. Aucun trouble. Jamais. Comme si cette fontaine attendait l'incendie.
Alors, je veux dire pourquoi il m'a... Alors déjà, il m'a marqué par sa capacité à être prêt à la violence. Alors que l'autre... Alors, la deuxième chose, il me semble être un écho par rapport au précédent, parce qu'il y a ce renversement. Là, c'est... Bon, là, je ne vais pas me faire expliquer grand-chose, mais là où l'un est, je ne dirais pas passif et plus accueillant, celui-ci est plus prêt vers une dynamique, ça me semble correspondre aux ouvrages. En revanche, j'ai été surpris par ce côté, j'ai envie de dire, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Parce que, voilà, c'est une interprétation, c'est un sentiment que je te livre, mais cette juste phrase...
Alors, en fait, ça fait partie du... Quand j'ai commencé à écrire ce deuxième recueil... Je voulais raconter l'histoire d'Alexandre le Grand, plus jeune conquérant du plus vaste empire dans l'histoire de l'humanité. En quelques années, il conquiert un territoire immense. Et son meilleur ami, Héphaïstos, je crois que c'est Héphaïstos, meurt de fièvre brutale en une nuit. Et Alexandre le Grand, voyant ça, décide de... est furieux. En veut, fait couper la tête du médecin qui n'a pas su le soigner, fait brûler des villages, tuer des enfants et des vieillards, rase tout, demande des funérailles qui auraient pu être ses funérailles à lui. C'est de la démence face à une mort non attendue, face à la perte. Un homme qui a tout gagné ne peut pas se résoudre à perdre. Je voulais parler de ça. Derrière, de manière un peu plus moins narcissique et plus humble, je voulais parler de ce sentiment. La période d'un deuil est une période extrêmement riche en émotions nouvelles, extrêmement énergisante. Donc cette énergie, elle peut être destructrice, mais elle peut aussi être, par moments, incroyable. Je ferai pas la comparaison entre une passion amoureuse, parce que c'est pas la même chose, mais y a de ça, et on vit des moments qu'on a l'impression qu'on vivra jamais plus. Et à partir d'un moment, quand la perte s'éloigne, justement, on reste avec des illusions perdues sur le monde qui nous entoure, toutes ces carrières, ces ambitions, qu'on a généralement. Moi, j'ai beaucoup de gens que j'estime enfin, des gens qui m'ont formé, journalistes, tout, qui étaient des grands monsieur. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelait Robert Fiès, qui était à Prisma Press, là où j'ai vraiment commencé mon travail, et qui était vraiment le seigneur mérité du groupe. C'était lui qui avait fondé le magazine Géo, par exemple. Et quand il est parti à la retraite, il m'a dit, vous savez Stéphane, tout le monde, une fois que vous êtes à la retraite, tout le monde vous oublie. C'est fini. Et il s'y attendait, hein, je pense qu'on s'y attend tous, mais je pense que aussi de le vivre, c'était... Voilà. Donc il faut profiter du moment. Et donc après cette période-là d'intense, on a donc assez jeune, l'impression que tout ça est un peu vain, que tout ce qu'on nous demande, qui est peut-être qu'on voit comme la seule issue pour continuer à vivre ou à survivre, sans être dans un truc, une lutte des classes, mais quand même un peu un côté perdre sa vie à la gagner, et de jamais trop avoir le temps de se demander mais pourquoi ? Pourquoi on est dans ce système-là ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça rend heureux les autres, ce que je suis en train de faire ? Donc c'est difficile de se recaler par rapport à un monde professionnel. Mais une violence qui vient peut-être de ce décalage, mais cette violence-là, alors c'est la violence de ne plus avoir de désir. De finalement avoir tellement pris de distance par rapport au monde que toute reconnexion est une part de simulacre dont on n'est plus dupe. Mais qu'il faut quand même, jouer le jeu. Parce que sinon, on s'extrait du monde. Donc c'est compliqué. Hein. Et sans vouloir, je pense que beaucoup d'auditeurs vont hurler. Mais je pense qu'entre l'anarchisme et le christianisme, un christianisme qui est vu comme rupture, dans la Bible, il y a un passage qui est, tu quitteras ta famille, ton père et ta mère. L'idée, c'est couper tout carcan, que ce soit la société, que ce soit ta propre famille, pour pouvoir trouver une liberté intérieure et revenir et aimer. Et il y a un penseur, alors sociologue et penseur protestant qui s'appelait Jacques Ellul, qui a beaucoup écrit et qui aujourd'hui revient à la mode un peu parce que c'est un des premiers qui a fait une critique du progrès de la technique. Comment la technique nous amène à des états de robots déshumanisés. Et enfin, ses ouvrages sur ces questions-là sont brillants aujourd'hui parce qu'il est en train vraiment de. Enfin, il a pensé avant notre société numérique l'aliénation que ça pouvait mal utiliser, que ces nouvelles technologies pouvaient amener très facilement. Où finalement, il n'y a plus d'idéologie ou d'idée derrière ça. Bon. Et Jacques Ellul a écrit un ouvrage qui s'appelle Anarchisme et christianisme. Et il a dit, pour moi, la meilleure projection politique du christianisme, c'est l'anarchisme. C'est ne pas refuser l'autre, mais refuser a priori toute imposition de carcan. Et trouver sa liberté intérieure. Donc ça veut dire ne pas se dire qu'on est seul, c'est l'inverse de l'individualisme. C'est se dire on a besoin des autres. Mais on a besoin des autres et on tirera un échange fructueux de notre relation aux autres à partir du moment où nous-mêmes on s'est construit et on a affirmé des convictions qui sont nos convictions et qui peuvent évoluer. Mourir pour des idées, j'adore cette chanson parce que c'est... Il y a aussi ça, est-ce que je suis sûr de vouloir m'engager là-dedans ? Peut-être que oui, et à ce moment-là, il faut y aller. Mais peut-être que non. Peut-être que je suis sûr de vouloir être avec ce groupe. Peut-être que je suis sûr de vouloir qu'on me reconnaisse comme ayant portant ces idées-là. Mais c'est pas pour cette cause. Donc avoir le courage aussi de se le dire. Quel est notre intérêt dans chaque action qu'on fait ? Ce que je trouve beaucoup plus sain que d'avoir tout de suite des grandes idées. On fait toujours les choses avant tout pour un intérêt personnel. Si cet intérêt rejoint le collectif et nous apporte une force, tant mieux. Mais Guy Vic, mon poète préféré, a longtemps été, comme quasiment tous les intellectuels français d'après-guerre, très lié au Parti communiste. Et horrifié ensuite, non pas de découvrir ce qui s'était passé, mais de sa propre de son propre refoulement, de n'avoir pas entendu, de n'avoir pas vu ce qui s'était passé. Mais parce que derrière, il l'explique très bien, parce qu'il a complètement rompu, parce que derrière il y avait une vraie fraternité qu'il appréciait, il y avait des choses formidables qui se passaient. Donc voilà, après, jongler avec tout ça, rien n'est parfait, rien n'est pur. Ça aussi, la poésie, je pense que contrairement à cette idée de pureté de la langue, c'est le meilleur moyen d'accueillir nos monstres, de formuler nos ombres, de dire voilà, ça c'est vrai, c'est une faille, ou c'est... Après on veut pouvoir l'améliorer, la calfeutrer, la soigner. Mais en tout cas déjà, la reconnaître comme existante, ça règle pas mal de problèmes. Et si on transforme ces failles-là en une création, poème, musique, ce qu'on veut, je pense que c'est déjà une petite victoire.
Vierge et sainte, tes points faibles et tes ruses qui n'abusent que toi. Je t'ai cherché, tu m'as défié, on s'est raté trop souvent. Du haut duel étrange, malédiction entre un ange et un démon.
Dans le sable, 4 pièces de centimes. Les placer dans ta main, qu'elles s'y évaporent. Mes chichis, mes chichis, qui veut mes chichis? Chichis, 2 francs. Délivrer la parole dans un éclat de rire, effrayer le passage, une fois le droit payé. C'est la fin des vacances. L'odeur n'a pas changé. Celle des protèges cahiers, de la colle UHU, de l'encre Waterman, du paquet de copies doubles perforées à grands carreaux. La même odeur. Un acharnement. Qui d'entre nous a réussi? Qui a pu concentrer assez de forces vives pour se faire reconnaître? Pour ralentir l'oxydation? L'air, aujourd'hui, plus léger. Peut-être que le muret tout au fond du jardin, peut-être qu'une lumière, peut-être qu'une position, ou alors l'impression d'inspirer différent. C'est le dernier poème d'une première vie. Tout déjà nous bascule derrière cette réponse. Je cherche. Nous te laisserons ce monde. Te débrouiller avec, renoncer et reprendre. Et peut-être qu'un jour nous y serons confiants. Sans bien savoir encore si nous serons capables, déjà, tu interroges. Hier, suivre l'escargot sur la marche trempée. Se souvenir qu'enfant, j'en faisais l'élevage. Puis tondre la pelouse et soigner le vieux bois. Respirer calmement au coucher du soleil, éclairant la montagne que nous avons gravie. Ce soir, nous monterons tout en haut du village, admirer le grand feu de notre canton en fait. Déjà lui expliquer qu'il est ici chez lui. Dernière veillée. Dernier séjour avant terme. Un léger crépitement me fait me rendre compte. Pour la première fois, je n'ai pas contemplé la caresse des flammes. Ne jamais avoir l'air complètement heureux. Ne pas froisser les dieux une seconde fois. Mais en sourire quand même. Et toi qui apparais, qui embrase le monde d'un seul doigt allumette.
Donc vous êtes toujours avec Stéphane Bataillon sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, téléphone du studio 01 43 71 89 40. Ça fait un peu terre à terre tout ça, malheureusement, mais nous en sommes fiers. Avant d'oublier, est-ce que tu peux nous dire qui était l'interprète de la chanson?
Alors c'est un extrait du nouvel album d'Igelin. Très beau, je trouve. Et moi, j'admire, voilà, j'admire des gens comme ça qui arrivent à rester sur une, à la fois sur une ligne, hein, c'est du Igelin, et en même temps à vraiment offrir quelque chose de nouveau, de fort, de résonnant. J'aime beaucoup cet album. Je trouve que c'est une réussite. C'est longtemps. Enfin, moi, j'aime bien Igelin. C'est très longtemps qu'il n'avait pas fait. Donc c'est un petit bonheur.
Qu'est-ce que ça fait de lire ces poèmes à la radio?
Je ne sais pas ce que ça fait aux auditeurs. J'espère que... moi, j'aime bien lire mes poèmes, de plus en plus en fait. C'est autre chose. Je l'ai...
Parce que j'étais surpris de voir sur ton blog de ce que tu appelles donc de la poésie sonore, c'est-à-dire de la lecture de tes poèmes.
Oui.
Qui sont disponibles comme ça, en complément des textes et des dessins, enfin des autres, des collaborations avec d'autres artistes. Et il y a effectivement le côté un peu égo du poète. Et puis il y a l'expérience différente.
Ouais, je le fais. Alors là, je reste très très humble là-dessus. C'est-à-dire que je connais des poètes, amis ou pas, qui lisent formidablement bien leurs poèmes, qui sont quasiment des acteurs. Hein. Et moi, je suis pas du tout là-dedans. J'essaye pas du tout de jouer l'acteur. Mais juste, moi, en tant qu'amateur de poésie, j'adore entendre les auteurs lire, d'avoir leur voix. Alors. Peu importe si c'est bien lu, mal lu, ça change complètement ensuite la lecture qu'on a du poème. Donc voilà, j'aime bien le faire. C'est marrant d'essayer de trouver des petites intonations différentes. Bon, après, j'ai pas une voix qui porte énormément, donc. Mais voilà, après, ça crée quelque chose.
Et lorsque quelqu'un d'autre lit tes poèmes?
C'est très agréable, en fait. Moi, j'aime beaucoup hein, quand tu lis. Non, je trouve ça très bien. C'est comme si on réinterprétait une chanson que tu chantes. Ou... C'est un bonheur de voir que le poème, en fait, est transmis et que quelqu'un s'en empare. Et on s'empare d'un poème en le lisant. Et ça, c'est vraiment un de gagné. Ouais, l'oralité est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec une amie qui s'appelle Céline Diger, qui est metteuse en scène, metteur en scène, qui met en scène, qui est actrice, très bonne comédienne, et qui m'a beaucoup aidé au début. Donc à la sortie du recueil, j'étais un peu tétanisé à l'idée de lire mes poèmes en public. C'était pas du tout quelque chose que j'avais déjà fait. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Dans la mise en voix du poème, elle m'a appris beaucoup de choses. Enfin, c'était déjà une grande découverte, et c'est une découverte aussi de son corps, de sa voix, intéressante, de commencer à dire des choses. Comme c'est une grande découverte de commencer à écrire. Hein, le succès des ateliers d'écriture aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui participent à des ateliers comme ça sont ravis. De l'étonnement que ça procure de se mettre, même si on pensait ne pas en être capable, à écrire des mots sans contrainte, enfin, ou avec contrainte, mais qui n'est pas une contrainte de rendre un devoir. Pareil pour l'oralité, c'est quelque chose Voilà. Après, c'est le tout début de passionnant. C'est le tout début. Hein. Mais c'est aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de la diffusion de la poésie, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, l'oralité. C'est par l'oralité, c'est un retour un peu aux sources, hein, puisqu'au début, la poésie, c'était les troubadours qui allaient de cours en cours pour dire les poèmes. C'est un retour à ce... Voilà, quelque chose de d'interpersonnel très fort. On est là, on parle pour quelqu'un. Et même quand on a un public, que ce soit 10 personnes ou 100 personnes, on parle à quelqu'un. Et ce que j'aime, c'est lire un poème et voir le regard des gens, voir le sourire des gens, voir ceux qui s'endorment aussi.
Il y a quand même une autre chose, tout au long de l'émission, tu as parsemé tes propos de référence à la technique, à la technologie, au numérique. Et ce lien entre finalement cet art quasi ancestral, en tout cas, du texte écrit, ou oralisé, ou oral écrit, enfin dans tous les sens, et puis ton côté féru de nouvelles technologies, avec quand même les réticences dont tu as fait part, est-ce qu'aujourd'hui ça permet d'autres choses? Est-ce que tu as un blog sur lequel il y a la poésie sonore, il y a du texte, il y a des images, des photos, des dessins, etc. Est-ce qu'il y a une lutte entre la poésie et ce monde technique? Ou est-ce qu'il y a une collaboration possible?
Ah ben, il y a... Le débat de critique des nouvelles technologies est intéressant. Maintenant, c'est un peu un paravent qui suffit à beaucoup. C'est-à-dire, la question, c'est la technologie va en tuer une autre. Quelle technologie on choisit pour faire quoi? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me dire, ça fait 15 ans que j'utilise, ou que je travaille même dans l'Internet. Tout ça. C'est utiliser tout ça, tester les choses, mais toujours au service de la diffusion d'une création. C'est-à-dire, il y a plein de critiques que je peux faire à ces technologies, aux usages qu'on en fait et que j'en fais, hein. C'est souvent des critiques ça. Personne n'est obligé, hein, sans se déconnecter complètement. Mais on peut. C'est à nous de prendre la décision d'utiliser ou pas. Mais moi, voilà, j'essaye de me dire, j'ai cette chose à laquelle je tiens énormément, qui est la poésie. J'ai envie de la faire partager au plus grand nombre. Eh bien, amusons-nous, testons des trucs. Là, je suis en train de travailler avec mon éditeur sur une version numérique du recueil. Et on a commencé à en parler, mais au départ, il s'agissait de mettre, comme tout le monde, le texte en format numérique. Ça, j'ai été très fervent défenseur de ça pour le premier recueil. Ça ne s'est pas fait parce que on n'avait pas la structure pour le faire, mais je le suis beaucoup moins maintenant. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait, de publier mon recueil en version numérique simple, sachant que j'ai un site qui est bien plus actif. J'aime l'objet livre. J'aime le livre. Souvent, on a des grands débats sur l'édition numérique. J'aime tourner des pages, sentir l'odeur, toucher le grain du papier. Ça ne veut pas dire que j'aime pas avoir une liseuse entre les mains ou utiliser un ordinateur, mais il y a quelque chose de très charnel avec le livre. Une fois cela dit, qu'est-ce que c'est un livre, un recueil poétique numérique? Ben là, voilà, on va essayer de rajouter déjà la lecture des poèmes, donc le texte lu, les poèmes parlés, et puis après, on peut imaginer plein de choses. Il y a un premier poème, par exemple, dans le recueil. Si tu devais choisir, quel mot inscrirais-tu pour amorcer le temps? Dans une version numérique, on pourrait par exemple proposer au lecteur de mettre le mot qu'il inscrirait pour amorcer le temps et de le conserver.
Est-ce que tu peux prononcer l'auteur de cette phrase, s'il te plaît?
Pourquoi? Ah non, ça c'est pas... Ah oui, non, t'as confondu avec une... Parce que j'ai cité quelque chose, voilà, juste après.
Oui. Excusez-moi les auditeurs, mais il y a une citation.
Ça c'est... Je peux me citer.
Pardon.
Donc, c'est une citation qui vient juste après. Il me demande où vas-tu? Mais comment le poète brigand peut-il connaître son lieu? Alors c'est un piège, c'est pas très sympa, Kevin.
Car l'auteur est...
Non, l'auteur s'appelle Urwa Ibn al-Nuward al-Absi. Et c'est un poète pré-islamique, un poète brigand. C'était vraiment un brigand de grand chemin. Il a eu une vie, il détroussait les voyageurs et il écrivait de la poésie. Et j'ai lu ça dans une anthologie de la poésie pré-islamique. Et bon, bien sûr, ça fait rêver un poète brigand. Et je trouvais, et derrière ça, je trouvais que cette phrase, mais comment le poète brigand peut-il connaître son lieu, est très très forte. Quelqu'un qui, comme ça, nomade et qui. Donc j'avais, voilà. C'était une citation que j'avais envie de mettre parce qu'elle correspondait bien au recueil, sachant que je n'aime pas trop les citations d'habitude. Et là, elle est restée, elle a ressurgi lors de la préparation du recueil.
Avec, excuse-moi, je reviens à ce que tu disais sur, par exemple, la possibilité pour un lecteur d'ajouter le mot sur la question du temps.
Oui, on était là-dessus. Et revenons
au temps pas jadis. Et est-ce que tu tiens en tant qu'auteur à tes poèmes? Parce que la question numérique aussi, c'est aussi la dépossession.
Ouais.
Est-ce que tu imagines, par exemple, des lecteurs modifiant tes poèmes, poursuivant tes poèmes?
En fait, on me l'a déjà demandé. Il y a quelqu'un qui s'appelle Christian Giacomino qui fait un travail très intéressant de. Dans les quartiers difficiles, je crois qu'il est à Marseille, en tout cas avec des enfants, d'appropriation des textes et de travail de trituration des textes. Il prend des poèmes, il enlève des mots, il demande aux enfants d'en mettre d'autres, tout ça. Et en fait, il m'avait contacté, on a échangé, et il y avait eu ce débat-là qui m'avait. En fait, il m'avait. Plutôt attaqué en tant qu'éditeur, dans mon travail de journaliste, en disant, vous les éditeurs, vous ne laissez pas les textes libres, en copyleft, enfin en diffusion libre, et un éditeur, ils vont, oui, mais il y a le droit d'auteur derrière, et puis il y a l'intégrité d'un texte et tout. Bon, mais ça m'avait fait réfléchir beaucoup sur ça, sur la poésie. Et j'ai mis même tous mes poèmes en version copyleft, c'est-à-dire licence libre, Creative Commons à un moment.
C'est-à-dire que c'est disponible et
modifiable. C'est disponible, modifiable, tout ça. Bon. Et puis finalement, j'ai aucun argument contre. C'est même un plaisir que les gens se saisissent de poèmes qu'on écrit pour ensuite travailler dessus et puis à condition qu'ils imaginent quelque chose ensuite. Si c'est pour donner une version tronquée d'un poème, bon, il y a aucun intérêt. Mais l'intégrité d'un poème, le poème se tient. C'est-à-dire qu'on travaille pas sur la langue, on ne choisit pas ces 10 mots qu'on décide de mettre sur une page. Si on se disait d'un autre côté, on peut en mettre 12 ou 13 ou un autre, quelque part on prend pas ça tellement ni au sérieux ni à cœur. Donc effectivement, l'intégrité du texte, évidemment, oui, c'est important. C'est mon poème. Après, que ce poème serve à d'autres choses, soit utilisé, soit diffusé, c'est toujours intéressant. Moi, souvent, on a utilisé des poèmes pour faire des ateliers d'écriture en primaire. Hein. J'étais présent ou pas, d'ailleurs. Je suis toujours... très touché par ce que la lecture de ce poème-là a pu donner. Et des fois, on reprend la structure du poème. Les enfants, ils reprennent souvent les structures de poèmes comme ça. C'est super. Et c'est souvent bien mieux que l'original, nombreuses fois. Mais bon, ça, ce débat, il est sur le numérique parce que c'est beaucoup plus simple de copier-coller un texte d'un fichier numérique à un autre fichier numérique.
Oui.
Mais ça se passera pas vraiment. Enfin, je pense que
le côté interactif, il est très galvaudé, mais disons l'appropriation par le lecteur qui redevient auteur à son tour.
Mais je pense que, alors, pour le coup, je pense que c'est pas en changeant un texte qu'on s'approprie un texte. C'est en s'ouvrant à lui, en le lisant à partir de sa propre expérience. C'est la relation qui se crée entre le texte et le lecteur qui fait que un poème écrit par un autre devient son poème à soi. Et généralement, je parle en tant que lecteur, on n'a aucune envie d'en changer un mot. Quand un poème nous touche vraiment ou un texte, on a plutôt envie de l'apprendre par cœur et surtout de ne pas se tromper. Donc, ça, je ne pense pas que ce soit une, voilà, cette interactivité. Il y a le débat, hein, sur, ah oui, il faut pouvoir bouger le texte. C'est pas ça quand on lit. Pas ça. Autant il y a des choses à faire, mais c'est pas ça une interactivité.
Pourtant. Pourtant, alors les
le deux... bougre.
Oui. Pourtant, dans tes deux ouvrages, les titres sont des citations de, ou des extraits,
ah oui,
de tes poèmes.
Oui. Oui, mais en même temps, tout à fait. Mais c'est moi qui choisis. Ou mon éditeur. Ou tout le poème n'est fait que pour un titre. Et il y a ça aussi.
Tu donnes pas de titre à tes poèmes, d'ailleurs.
Non. Alors j'en donne sur mon blog. Toi, c'est une question que je me suis posée, mais finalement, voilà, ça permet aussi. C'est la consommation du poème, lecture du poème, le même poème dans un recueil et sur un blog, le même poème détaché des autres et intégré dans une chaîne qui raconte quelque chose. On l'apprend pas de la même manière. Et les poèmes courts, j'écris généralement courts. C'est difficile parce qu'il y a peu de mots. Or, quand on entend un seul poème, le temps de fermer les yeux ou faire silence en soi pour accueillir quelque chose dont on ne sait rien et se créer une image mentale et puis ensuite l'apprécier, à part des poèmes géniaux, ils existent. Moi, je ne sais pas si j'en ai écrit un seul, mais c'est très très compliqué. Donc, un titre permet de donner une présentation presque. Et puis, il y a l'espace entre le titre et le premier vers qui donne ce silence, cette distance, qui permet de dire, ok, on se cale, on est là-dedans, on va essayer même de jouer à trouver pourquoi il a pris ce titre-là et tout. Bon. Donc, sur le blog, c'est très bien d'avoir des titres et j'aime bien ça. Par contre, une fois que tout est réorganisé, tout ça, les trop de titres... pour les recueils que je fais, qui sont vraiment des recueils, comme des albums concept un peu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne va pas lire tout du début à la fin, mais ils sont faits pour être lus tous ensemble. Je les conçois comme ça. Là, les titres peuvent freiner un peu ou créer des ruptures qui ne sont pas forcément voulues. Bon, donc on... Voilà, c'est une des questions. C'est comme les majuscules, par exemple. Je ne mets pas de majuscules sur les vers, alors qu'au début j'en mettais sur chaque vers. Ça donnait un petit peu un côté grandiloquent, et finalement c'était là aussi une manière de rajouter un obstacle au désir de faire quelque chose de fluide. Donc, je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas au désir de, un peu comme de l'eau, moi je suis très attaché à ça, je suis attaché à la roche,
ça revient souvent,
mais l'eau ça a pas forcément de goût, et pourtant quel bonheur au bout de deux gorgées d'une eau bien fraîche, quoi. Et c'est un peu ça que j'ai envie de transmettre.
Alors, du coup, nous avons demandé tout à l'heure, pourquoi ces césures, ces quatre parties, d'où viennent-elles ?
Elles viennent d'un travail de construction laborieux du premier recueil, pour essayer justement de faire le tri un peu entre les différentes périodes racontées, et après pour aussi... donner une respiration. C'est quand on n'a pas beaucoup d'occasions de donner des respirations. Il y a le blanc de la page, il y a le point, il y a le titre, mais là il n'y en a pas. Et c'était pour créer comme ça des paliers un peu dans l'exploration de cette l'histoire. Et donc avec une approche que moi j'avais pas du tout au départ, mais qui a été un conseil de Bruno. Un bon conseil. À un moment, il m'a dit, il faut quand même que tu racontes une histoire, il faut que tu prennes le lecteur par la main et que tu l'emmènes dans ton univers. Donc, il faut que tu racontes. Avec tout ce que ça a, à toi de trouver la sincérité ou le moment où ça rejoindra la beauté de chacun de tes poèmes. Mais si tu mets tous tes poèmes ensemble, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est indigeste. Ça ne tient pas. Donc, il faut travailler à une construction narrative. Et ces parties-là aident peut-être. Si le second recueil, là, je l'ai fait vraiment en regard du premier, parce que ça se tient, c'est une même histoire, c'est une manière aussi de ne pas trahir l'histoire. Il y a dans le premier recueil, à la fin, je peux vous lire deux poèmes. C'est un des derniers et le quasi dernier. Ben, je ne le retrouve pas.
Il en est toujours ainsi. Je se dérobe.
C'est l'effet... Bon, je ne le retrouve pas, tant pis, ça fait rien. Mais il y avait, à la fin, je dis, ni tourner la page, ni changer de route, poursuivre. Ça veut dire aussi ne pas faire l'inverse de mettre des parties, c'est-à-dire considérer son expérience et la traduction, la formulation de cette expérience comme un tout, avec certes des moments de tristesse, du souvenir, des regrets, mais aussi énormément d'amour, énormément de joie, à toutes les étapes. Et c'est pour ça que je voulais présenter ces deux recueils comme des un peu des livres en symétrie. Voilà. Avec toujours l'amour qui est partout, et que j'ai la chance de connaître grâce à deux femmes formidables.
Tu le dis toi-même, poursuivre, deux ouvrages qui ont deux raisons d'être, une symétrie c'est souvent deux parties. Comment poursuivre alors, que comment vois-tu la poursuite de tout cela?
De l'œuvre, du travail poétique.
La publication de...
Je me laisse la... Je me laisse l'occasion d'être surpris. Un poète ne fait pas carrière. Hein. Un poète n'est jamais médiatique, ne gagne jamais d'argent avec sa poésie. Même les plus grands. Je pense à Philippe Jacotet, qui est un immense poète, qui disait, voilà... Un poète qui gagne le SMIC, c'est un miracle. Il faut faire des trucs à côté. Lui, ça y est, c'est un auteur qui est âgé, qui écrit, qui a publié ses il a dit que c'était son dernier recueil il y a quelques mois ou un an peut-être. Une très belle poésie, limpide, sur pareil des choses du quotidien, mais alors sublimée. Il a été un des rares poètes au baccalauréat, hein, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Bon, on ne fait pas carrière de poète. On vit avec la poésie et je me laisse même peut-être qu'un jour la poésie sera plus un mode d'expression privilégié pour moi, tout ça. Et c'est en se laissant cette liberté-là, de ne pas trop faire de plan sur la comète, que justement, on continue à écrire, à prendre du plaisir à écrire. Parce qu'autant il y a de la souffrance, il y a une vraie souffrance, c'est-à-dire que c'est un vrai travail, torture, d'agencer les poèmes pour en faire un recueil, de travailler vraiment des jours et des jours. Moi, j'ai passé 15 jours pour ce second recueil, et bien plus pour le précédent, à choisir des poèmes, à n'écrire pas un mot supplémentaire. Par contre, à les agencer, à essayer de faire que tout coule bien. Ça, c'est du travail. Mais après, le moment d'écriture du poème, pour moi, est un vrai plaisir, est une vraie joie, est une vraie... C'est génial. C'est-à-dire que je me dis à chaque fois, quelle chance j'ai d'avoir découvert ce truc-là. Que tout le monde peut découvrir, hein, que j'invite tout le monde à découvrir, mais sans aucune contrainte, sans aucun jugement surtout. Que personne ne doit vous dire c'est un bon poème, un mauvais poème. Votre éditeur peut vous le dire. Parce qu'on est dans une relation où au bout, il y a un livre. Donc, on crée quelque chose qu'on a décidé. L'éditeur qui vous dit c'est un mauvais poème, c'est parce qu'il pense que d'autres poèmes sont bons. Sinon, il ne prend pas le risque de vous éditer. Donc là, c'est une relation de travail en fraternité, en communauté, mais pour donner naissance à un texte. Mais quand on écrit comme ça pour sa poésie, personne ne doit, et même vous-même, il ne faut pas se juger. Il faut donc accepter d'écrire des trucs qui ne tiennent pas, mais ça ne fait rien. Il y a toujours un petit quelque chose.
Nous voici arrivés au bout de l'émission. Alors, nous allons demander quand même la lecture d'un poème. Juste, je rappelais que nous recevions donc Stéphane Bataillon pour son ouvrage Les Terres Rares aux éditions Bruno Doucet. Également son précédent Où nos ombres s'épousent, toujours aux éditions Bruno Doucet. Je vous renvoie, parce que nous avons parlé de plusieurs références d'illustrateurs, de photographes, de poésie sonore ou d'auteurs, à son blog, stéphanebataillon.com. Et je laisse donc terminer par un poème ou plusieurs de son choix.
Je regarde juste deux poèmes vers la fin du recueil. Tu ne liras jamais les centaines de livres collectionnés pour toi. Pour cette image de moi, projetée un peu au loin, dans le rêve d'un enfant au regard identique. Tu ne liras jamais les mille aventures découvertes au détour et ces milliers de pages scrutées par la vigie. Je me suis séparé de ces traces évidentes. Je préfère effacer la carte de mes joies pour te laisser l'usage des frissons du chemin. Nous livrerons les ailes au seuil de ta porte. Qu'il te soit libre. Et le dernier poème de ce recueil dédié avec ma compagne, parce que c'est vraiment, c'est moi qui écris, mais c'est une aventure qu'on a vécue à deux, qui est dédiée à Thomas, mon fils, notre fils. Sache-le, quoi qu'il arrive, ces poèmes déposés formulent un pan de terre, inscrit pour que tu gardes quelque chose du sable, de ce qu'il a du roc, malgré l'effritement. Il arrivera peut-être que la révolte emporte, que les lignes se brisent, soudain décalcifiées. Alors, repose-toi, ne cesse jamais d'aimer et n'écoute pas les autres. Et ne m'écoute pas. Un beau matin, le chant redeviendra le tien. Il sera terre rare.
Oublie la vitesse, oublie l'agression verbale contre un arbre. Vois les nuages passer, le ciel s'ouvrir. Écoute la rivière se taire, personne pour vous regarder. Contre un arbre, contre un arbre, les jours à cran. Les jours qui font écran, ils se détachent comme des peaux sèches d'inutiles carapaces. Contre un arbre, laissez-vous faire, laissez-vous. Laissez-vous faire, laissez-vous vous porter sous le ciel ouvert, au bord de la rivière, à la langue liée.
seront vos alliés, les Corses. Un mur impénétrable vous resterez caché contre un arbre. Seulement des taches de couleurs mouvantes au bord de la rivière qui passera sans maudire sur vos petites affaires, sur ce que vous aurez à faire contre un arbre. Contre un arbre.